Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du lundi 19 novembre 2018. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, le candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Chadari, a dévoilé son programme de gouvernance. Au Tchad, une ONG exige la libération d'étudiants détenus, selon elle, abusivement. Reprise à la haie du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé. Et puis les 27 pays de l'UE donnent leur feu vert à un projet d'accord avec la Grande-Bretagne avant un sommet prévu dimanche. Partie magazine, retour sur le concert de Salif Keita ce week-end au Mali pour rendre hommage à une albinos assassinée en mai dernier.
Je trouve ce concert mémorable avec ce qui est arrivé à la petite Ramata. Tout le Mali a été choqué.
Et puis ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections du 23 décembre commence dans trois jours. Emmanuel Chadari Ramazani, le candidat du Front commun pour le Congo, la famille politique du président Kabila, a dévoilé aujourd'hui son projet pour son pays. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce qu'il faut retenir, c'est que d'entrée de jeu, Emmanuel Ramazani Chadari a rendu hommage à Joseph Kabila en présentant ou en rappelant le bilan de ses années au pouvoir, avant de rappeler qu'il va se servir de ce bilan pour assurer la continuité des actions de Joseph Kabila. Pour ce qui est de son programme de société, Emmanuel Ramazani Chadari l'a reposé sur quatre piliers majeurs. Il s'agit de garantir l'emploi, des revenus suffisants pour couvrir les besoins de base de tous les Congolais, garantir l'accès aux services de l'État, démontrer que l'importance et la position géostratégique de la République démocratique du Congo est assurer la protection du citoyen congolais et de ses biens par l'État. Et pour y parvenir, il rappelle quatre stratégies de son programme: renforcement de l'autorité, l'amélioration de la gouvernance, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté, la garantie de l'accès aux services publics et la réaffirmation du rôle géostratégique de la RDC. Emmanuel Ramazani Chadari veut se donner des moyens pour réaliser cette promesse de campagne. Il compte donc mobiliser 86 milliards de dollars américains de budget en 5 ans pour parvenir à appliquer son projet de société. Il a par ailleurs rappelé sa volonté, son engagement à lutter contre le clientélisme, les abus du pouvoir, l'impunité, la corruption et la fraude dont le régime Kabila a été très critiqué ces dernières années.
Voilà, c'était Thierry Kambundi depuis Kinshasa. En restant RDC avec ces nouvelles tensions à l'université de Kinshasa, selon un étudiant, des heurts se poursuivaient donc à la mi-journée. Des policiers tirés à balles réelles en l'air et des gaz lacrymogènes. La police, elle, dénonce des infiltrations, assurant avoir rétabli l'ordre public depuis le 12 novembre. Donc, les étudiants manifestent pour réclamer la levée de la grève de leurs professeurs, entamée depuis 2 mois sur des questions salariales. La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme exige la libération de 11 étudiants de l'université de N'Djamena qui donc sont abusivement détenus, selon cette ONG, depuis le mois d'octobre à la suite d'une bagarre. Nani Talani.
La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme demande la libération immédiate et sans condition de ces 11 étudiants, se disant surprise par la décision de la justice de signer leur mandat de dépôt sans audition ni assistance de leurs avocats. Ces membres de l'Union nationale des étudiants du Tchad ont été arrêtés le 10 octobre. Ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat d'un leader de leur union, ainsi que pour obstruction à la semaine de la citoyenneté initiée par le couple présidentiel. Leur arrestation fait suite à une rixe ayant opposé le 1er septembre un groupe d'étudiants favorables à l'initiative du couple présidentiel à d'autres étudiants hostiles à cette semaine de la citoyenneté. Cette bagarre avait entraîné des blessures de certains étudiants, dont M. Esserbe Dikréo Amos, qui s'était autoproclamé président élu de l'Union. Hormis les poursuites judiciaires, l'Union nationale des étudiants du Tchad demande au rectorat de prendre des mesures académiques pour sanctionner ces étudiants.
la convention donc tchétchène de défense des droits de l'homme qui exigeait la libération de 11 étudiants. En Centrafrique, le bilan des affrontements de la semaine dernière à Alindao, dans le centre du pays, s'établit à 48 morts au moins, selon un rapport interne de l'ONU. Un précédent bilan faisait état d'au moins 37 morts, dont deux prêtres, dans des combats qui ont opposé jeudi des milices anti-Balaka à des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique. Reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, les avocats de ces deux derniers plaident aujourd'hui à La Haye. Le point avec Raïssa Girondin.
Ce lundi s'ouvre une nouvelle audience qui va durer 4 jours pour le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé à la CPI. Conduite par Maître Gougnon, la défense de Charles Blé Goudé est allée dans le même sens que celle de Gbagbo en essayant de démontrer que l'accusation ne basait son argumentaire que sur de simples spéculations. Il est accusé d'être chef des milices pro-Gbagbo par la procureure Fatou Bensouda. L'ex-leader des jeunes patriotes serait notamment impliqué, selon elle, au même titre que Laurent Gbagbo, dans des incidents violents suite à l'annonce des résultats de la présidentielle de 2010. Charles Blé Goudé rejette cette image de milicien. Depuis son incarcération en mars 2014, ses avocats le décrivent comme un homme de paix. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010 et de 2011 en Côte d'Ivoire. Le procès s'est ouvert en 2016 à la demande du président Alassane Ouattara qui a saisi la juridiction internationale.
En Éthiopie, un haut responsable d'un des partis de la coalition au pouvoir accuse le premier ministre Abiy Ahmed d'avoir ciblé des personnalités d'ethnie tigréenne dans une campagne de lutte contre la corruption au sein des services publics, des services de sécurité. Le président du Front de libération du peuple tigréen a estimé que l'arrestation la semaine dernière de 63 officiers de l'armée et des services de renseignement accusés de corruption et de violation des droits de l'homme était destinée à soumettre les Tigréens. En Zambie, un commandant de police a défendu à Lusaka le droit de manifester de 6 militants jugés pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement. Les accusés ont un droit constitutionnel de manifester. Ils ont respecté la loi, a estimé le numéro 2 de la police pour la province de Lusaka.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 27 de l'Union européenne ont donné un premier feu vert à l'accord de divorce négocié avec Londres. C'est le coup d'envoi donc d'une semaine d'intenses tractations avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles. Le point avec Lionel Gaïma.
Les deux parties doivent maintenant se mettre d'accord sur la nature de liens qu'elles garderont après le Brexit. Les autres points importants portent sur la longueur maximale de la transition après le 30 mars 2019 et le contenu de la relation future. La première ministre britannique Theresa May se rendra dans la semaine à Bruxelles. Ses détracteurs au Royaume-Uni lui demandent d'améliorer l'accord de 585 pages pour organiser la séparation. De leur côté, les 27 ont apporté lundi leur soutien politique à ce texte qui prévoit notamment le solde de tout compte que devra verser Londres à Bruxelles. Ce sera une semaine intense de négociations. A prédit Mme May, quelques jours après avoir réussi à faire endosser par son gouvernement l'accord provisoire avec Bruxelles au prix d'une série de démissions. Londres et Bruxelles doivent y esquisser les contours de leur futur partenariat. Ils ne pourront commencer à négocier formellement qu'après le départ officiel du Royaume-Uni, le 30 mars 2019. Les 27 devront approuver dimanche le texte sur la relation future, tout comme le traité de retrait, lors d'un sommet à Bruxelles.
3 personnes ont été tuées par balle au cours de manifestations en Haïti hier, selon la police, alors que l'opposition évoque un bilan de 11 tués sur l'ensemble du pays. Interrogé sur l'écart entre ces bilans, le porte-parole de la police est resté prudent. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes d'Haïti pour dénoncer la corruption et réclamer la démission immédiate du président Jovenel Moïse. La lutte contre le paludisme ne progresse pas, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans un rapport publié aujourd'hui. Le paludisme est l'une des premières causes de mortalité au monde. 219 cas ont été enregistrés en 2017, soit 2 millions de plus que l'année précédente. Et puis, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est parvenue à réduire son déficit budgétaire de plusieurs dizaines de millions d'euros grâce aux contributions de l'Union européenne et des pays du Golfe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire recevra 33 millions de dollars de la Banque mondiale pour lutter contre l'érosion côtière. Ce projet doit aider à préserver le littoral ivoirien, long de 566 km, principalement dans la commune de Grand-Laou, à 145 km d'Abidjan. Il devrait permettre de déterminer les menaces qui pèsent sur les habitants, les écosystèmes et les actifs économiques du littoral, de renforcer les capacités de lutte contre l'érosion côtière et l'adaptation au changement climatique. La Guinée-Bissau vient de signer un accord de pêche avec l'Union européenne. Cet accord s'étend sur 5 ans et permettra aux navires de l'Europe de pêcher dans les eaux bissau-guinéennes, moyennant un paiement annuel de 15,6 millions d'euros contre 9,5 millions d'euros précédemment. 11,6 millions d'euros iront au budget du gouvernement et les 4 millions d'euros restants seront affectés au système de surveillance des eaux territoriales, à la recherche et aux installations piscicoles. Enfin, pour terminer, en Algérie, le Conseil de la monnaie et du crédit qui agit en qualité d'autorité monétaire a décidé de doubler le capital minimum requis pour les banques et les établissements financiers du pays. Le seuil minimum passe de 85 millions de dollars à 169 millions, alors que le capital requis pour les établissements financiers passe de 30 millions de dollars à 55 millions de dollars. Un délai de 2 ans a été donné aux banques et établissements financiers algériens pour se conformer à cette exigence réglementaire.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
8 nouveaux qualifiés pour la CAN 2019.
Après le Cameroun, pays hôte, l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie, 8 nouveaux pays ont validé leur billet à l'issue de la 5e journée des éliminatoires disputée le week-end écoulé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a assuré le nul d'un but partout à Conakry devant la Guinée, qualifié avant le coup d'envoi. Le Nigeria aussi s'est qualifié après son nul 1-1 en Afrique du Sud, tout comme le Maroc grâce à sa victoire 2-0 sur le Cameroun, combinée au succès des Comores face au Malawi.
L'Algérie et le Mali ont décroché leur qualification à l'extérieur.
Oui, au Togo pour les Algériens et au Gabon pour les Maliens. Les Fennecs ont nettement battu les Éperviers 4-1 et les Aigles ont réalisé le service minimum devant les Panthères 1-0. Qualification historique pour la Mauritanie après sa victoire 2-1 face au Botswana. Enfin, comme en 2017, l'Ouganda sera au rendez-vous de la CAN 2019. Les Crânes ont validé leur billet à domicile en s'imposant 1-0 face au Cap-Vert.
Des équipes ont raté l'occasion de se qualifier lors de cette 5e journée.
Oui, on peut citer l'exemple du Zimbabwe. Les Warriors, qui avaient la qualification à leur portée, se sont inclinés 1-0 au Libéria, un résultat qui relance les Libériens, désormais deuxième au classement, devant la RDC et le Congo, qui se sont neutralisés 1-1 dans le derby du fleuve Congo. Le Bénin aussi a raté l'opportunité de se qualifier à Banjul. Les écureuils battus par la Gambie 3-1 auront une finale à jouer en mars prochain contre le Togo, tout comme l'Afrique du Sud en Libye. Les Bafana, accrochés à domicile par le Nigeria, n'ont désormais qu'un point d'avance sur les chevaliers de la Méditerranée qui ont atomisé le Lesotho 8-1.
La grosse déception reste l'élimination de la Zambie.
L'équipe Polo Polo, champion d'Afrique en 2012, ne seront pas au Cameroun l'année prochaine. La faute à cette défaite 1-0 face au Mozambique. Déception également pour le Burkina Faso, battu 2-1 en Angola. Écoutons le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, très déçu.
Nous sommes découragés aujourd'hui de perdre la possibilité de décider pour nous-mêmes. On n'a pas joué dans l'attaque avec la force, la qualité que je pensais qu'on va jouer. Il faut le dire, on n'a pas joué, on n'a pas de grandes idées. On n'a pas gagné de duel individuel, on n'a pas rentré dans la surface, on n'a pas frappé, on n'a pas dépassé le défenseur pour servir l'attaquant. Pas de grande efficacité.
Pour se qualifier, les étalons devront battre la Mauritanie en mars prochain tout en espérant que l'Angola ne s'impose pas au Botswana. Par contre, le Ghana s'est relancé après avoir battu l'Éthiopie 2-0. Avec ce succès, les Black Stars reviennent à 1 point du leader kenyan.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. L'Union africaine a adopté certaines des réformes proposées par Paul Kagame ce week-end à l'occasion d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba. Un des points de discussion était le financement de l'organisation. Morgane Guerrier a joint Ibrahim Khan, directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine à Dakar, au Sénégal.
Ils se sont entendus sur le pourcentage ainsi que les modalités de contribution des États. Il y a des États qui appartiennent à des communautés économiques, comme par exemple l'UEMOA, la CEMAC. Puisque l'argent passe par les banques centrales, il faudrait que les banques centrales s'arrangent. Ça pose quelques problèmes techniques. Mais ce qui est plus important dans cet aspect du financement, c'est le fait que les États ont aussi décidé que maintenant les récalcitrants paieront plus cher et n'ont que 2 ans au lieu de 5 pour vraiment régler leurs arriérés.
Qu'est-ce que ça va changer pour l'Union africaine ?
Actuellement, le budget qui est en cours est financé à presque 60% par les États européens. Alors, vous savez que qui finance décide de l'agenda. Cela est quand même impensable pour une organisation qui veut dédier toute son attention aux problèmes de l'Afrique et trouver des solutions africaines aux problèmes africains. La CEDEAO expérimente ce procédé depuis une dizaine d'années et le niveau de contribution extérieure au budget annuel de la CEDEAO est de l'ordre de 5%.
Le président Kagame prévoit aussi de changer le processus de désignation au sein de la Commission de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a un consensus sur cette question ?
Ce qui s'est dégagé au niveau du fonctionnement de la Commission, c'est d'abord la réduction du nombre de commissaires de 10 à 8. Bon, c'est quand même une économie assez substantielle vu qu'un commissaire coûte à peu près 500 à 1 million de dollars. Dans le recrutement comme dans l'évaluation, il y aura beaucoup d'éléments de contrôle, de supervision de la part de l'Union. Avant, un commissaire pouvait demander à être réélu sans que l'on regarde de près le mandat passé. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. Il va falloir passer par un système d'évaluation. Et le dernier élément, c'est aussi les méthodes de recrutement du personnel. Ce ne sera plus le copinage, le parrainage par des directeurs ou des commissaires. Ce sera un système beaucoup plus transparent.
C'était Ibrahim Khan depuis Dakar au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Nigeria, les responsables des services pénitentiaires tentent de changer la situation dans les centres de détention du pays. Ils indiquent avoir inscrit quelques 465 détenus dans des programmes de formation professionnelle et universitaire. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie dans un système pénitentiaire régulièrement critiqué par les organisations des droits de l'homme. C'est ce que nous dit Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Ils sont aujourd'hui plus de 75 000 détenus dans les prisons au Nigeria, répartis dans 240 centres de détention. Dans certains centres, les détenus ont la possibilité de suivre des cours de formation professionnelle. En outre, 12 centres de formation universitaire ont été établis dans différents États. Francis Enobore est chargé de la communication des services pénitentiaires du Nigeria.
Les programmes que nous offrons pour la formation professionnelle sont entre autres la coiffure homme, la couture et d'ailleurs cette tenue que je porte en ce moment a été réalisée par un prisonnier formé en détention. Et beaucoup d'entre eux réussissent bien dans la société. Il y a aussi la menuiserie, la soudure, la fabrication des chaussures et autres.
Les niveaux de formation dépendent des compétences déjà acquises par les détenus avant leur arrestation. Adeyi Théophilos Okechukwu est l'un des bénéficiaires du programme de formation supérieure. Il a obtenu un master en résolution des conflits et acquitté par la justice nigériane.
Quand nous avons commencé le programme, même les autres détenus se moquaient de nous. Ils nous disaient « Pourquoi ne pas vous occuper de votre situation ? Trouvez une solution à vos problèmes avec la justice ou mieux encore, travaillez ensemble avec ceux qui sont condamnés pour sortir de prison au lieu de vous leurrer en disant que vous étudiez en détention. » Ils nous demandaient depuis quand on voit un détenu sorti diplômé d'une prison au Nigeria. Cela n'arrive jamais, mais avec l'engagement et la persévérance, nous avons pu continuer.
La surpopulation des prisons est liée au fait qu'environ 70% des détenus n'ont jamais été jugés et condamnés. Mais le débat sur la situation des détenus en attente de procès dépassant le nombre de condamnés au Nigeria n'est pas nouveau. Sanusi Moussa est avocat au barreau nigérian. Il donne ici quelques raisons du retard dans le procès des détenus.
Dans la plupart des cas, la police envoie les gens en prison alors que les enquêtes ne sont pas finies. Ensuite, nous devons penser aux problèmes de logistique dans les prisons. Enfin, le nombre de juges disponibles est un autre problème parce qu'ils sont surchargés. Donc, quelle que soit la situation, ils doivent se prononcer sur toutes les affaires devant eux.
En 2015,
le Nigeria a adopté une loi sur l'administration de la justice criminelle pour accélérer les procès. Cette loi limite le nombre d'ajournements des procès et stipule qu'un procès devrait se dérouler en un coup autant que possible. Mais cette disposition n'a pas encore permis de réduire le nombre de détenus en attente de procès. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Mali, la mégastar Salif Keita a donné un concert gratuit samedi au stade de football de Fana. C'était pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra, assassinée en mai dernier dans cette localité. Et c'est un reportage de Kassim Traoré.
Le terrain de football de Fana a refusé du monde. C'était à la faveur du concert gratuit pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra, assassinée à la veille de la présidentielle malienne.
Je trouve ce concert mémorable avec ce qui est arrivé à la petite Ramata. Tout le Mali a été choqué. Salif même qui est un peu l'ambassadeur même de ces gens qui sont discriminés. Je crois que c'est un message fort qu'il lance. J'espère qu'à travers ce concert, à travers ce forum qu'il a fait, ça va bousculer les choses parce que ça va faire peur peut-être aux gens pour dire que tant qu'ils vont agir de façon négative, les autorités et la société civile vont se mettre sur leur dos. Je pense que ça peut être un signal fort pour que les exactions et la discrimination des personnes atteintes d'albinisme s'arrêtent.
Fana n'avait pas abrité un tel événement. En plus de Salif, il y avait le Sénégalais Ismaël Lou ou encore la chanteuse malienne Safi Diabaté qui ont émerveillé le public de Fana.
Je suis de la Mauritanie. Ça va, la situation était bonne. On était là pour la conférence pour l'Afrique de l'Ouest et c'est bien passé. On a fait d'activités, on a fait d'activités d'échange et on a visité le centre Bamako ici au niveau de Bamako. Et aujourd'hui, on est dans le concert et c'était impeccable. D'après ce que je vois, si on continue comme ça, on va gagner le combat.
Le public connaisseur de la musique était là pour les shows et l'hommage à Ramata Diarra, dont les parents étaient de la soirée, comme les albinos venus du monde.
C'était génial. Beaucoup d'amour, de solidarité, fraternité. C'était bien. La vie, c'est la paix. C'est ça que j'ai retenu. C'est une bonne chose, cette manifestation. On est tous là pour essayer que plus jamais ça ne se reproduise. Mais c'est un mauvais acte qui lui est arrivé. J'espère que ça ne se reproduira pas. Moi, je suis française, mais je soutiens, quoi.
La soirée était très bonne. Je suis encore ici, la de Salif Keita. Je suis satisfait.
Le concert de Fana a été aussi une occasion pour les participants, surtout les artistes, de dénoncer les exactions dont sont victimes les albinos en Afrique et dans le monde.
Je suis venu pour découvrir le concert, c'était très très bien.
Pensez que le message sera perçu?
En tout cas, par les gens qui étaient ici, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Enfin, un gros concert comme ça, gratuit, ça marque les esprits. Et puis, il a fait venir beaucoup de personnalités, donc je pense que le message passe. Et c'est important de le faire passer, parce qu'il y a un besoin important, apparemment.
Il faut signaler que c'est le 13 mai dernier que la petite Ramata Diarra, 5 ans, avait été enlevée par des hommes armés, alors qu'elle dormait avec sa mère et sa sœur dans la cour de la concession familiale. Son corps décapité a été retrouvé quelques heures plus tard, à côté de mosquée. À l'époque, des associations avaient dénoncé un crime rituel à l'approche de la présidentielle malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le bilan du Camp Fire, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, s'est encore alourdi après être passé à 77 morts hier soir. Les autorités américaines mettent les bouchées doubles pour contenir ce drame qui ravage presque chaque année cet État américain. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Toute l'Amérique reste sous le choc. Près de 10 000 habitations ont été détruites par ce brasier dont les fumées ont atteint la capitale Sacramento, à 130 km au sud de la ville de Paradise. Sur les 77 victimes, seulement 67 ont pu être identifiées. 993 autres sont encore portés disparus et les autorités ont appelé leurs proches à fournir des échantillons d'ADN pour aider à l'identification des corps retrouvés. Mais avant le constat est clair, Paradise a été rasé par les flammes, constate avec amertume Ryan Zink, ministre américain de l'Intérieur.
Paradise, malheureusement, ne sera probablement plus la même ville. Rien qu'à voir l'ampleur des dégâts. Les feux de forêt sont tous mauvais, mais cet incendie est sans précédent et à bien des égards. Le gouverneur et moi avons fait des tournées. Nous allons en faire aujourd'hui. Mon rôle est de veiller à ce que les ressources fédérales soient ici et bien coordonnées.
Comme Fire a ravagé plus de 60 000 hectares, le président Donald Trump s'est rendu à Paradise samedi pour se faire une idée de la situation sur le terrain. Difficile d'évaluer à ce stade le nombre de victimes, ces feux demeurent un véritable casse-tête pour les autorités qui appellent à l'union de tous les secteurs pour combattre ce phénomène récurrent, insiste le ministre de l'Intérieur américain.
C'est insoutenable que cela se produise année après année ou d'avoir une saison comme celle-ci au cours de laquelle avoir des centaines de milliers d'hectares en flammes devient une routine. Nous sommes une grande nation. Ce n'est pas un problème républicain ou démocrate, c'est un problème américain et nous devrions le traiter comme tel.
Le gouverneur sortant de la Californie, Jerry Brown, suggère une meilleure gestion des forêts.
Nous devons désormais mieux gérer nos forêts. Nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment. Nous devrons construire des abris pour accueillir les gens lorsque ces terribles incidents deviennent incontrôlables. Et oui, nous allons avoir à faire face au changement climatique, être du côté de la nature et non pas seulement la combattre.
À cause de ces incendies, plusieurs milliers d'Américains sont sans logis. Une partie de l'histoire du pays a aussi été perdue dans le Woolsey Fire qui a touché Malibu et les collines de la banlieue ouest de Los Angeles, détruisant notamment le Paramount Ranch, un ancien lieu de tournage qui accueillait les projections estivales des films muets.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Sims Lumami, à la console Cortis, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
make plans. She never make plans when I'm in town. She know a nigga sad. Know I put her down when I come around. No time for the back. Time for the back. We just wanna have a good time, you know. We only got one life after all. So we gon' make it count to the maximum.
Bienvenue à bord.